Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Bezvachim, page 50, Daf Nun. Bonne écoute et bon limoud.
Midetana de Berabi Ishmael, nous l'apprenons d'une braïta qui a été enseignée dans le Bet HaMidrash de Rabbi Ishmael. Il s'agit d'une braïta que nous avons vue plus haut, Daf Mem Alef Amud Alef. Il s'agit de lois concernant les aspersions de sang, que nous avons appris par juxtaposition qu'elles existent pour les boucs offerts par le public qui a commis l'idolâtrie. Et dans cette braïta enseignée dans le Bet HaMidrash de Rabbi Ishmael, nous avons appris que ces lois existent aussi pour les boucs offerts à Yom Kippour par le moyen d'un raisonnement a fortiori. La Gemara demande « Davar halamed be'ekesh ma'ush elamed be'binyanav » quelque chose que nous avons appris par le moyen d'une juxtaposition, peut-on l'étendre ailleurs par le moyen du binyanav? Donc c'est un raisonnement qui permet d'étendre une loi tant qu'il n'y a pas de réfutation. Amar Rabbi Irmiya, Rabbi Irmiya répond « Lo lichtov tzafona be'asham » la Torah n'avait pas besoin d'écrire que le Korban Hasham doit être sacrifié dans la partie nord de la cour du sanctuaire. VTT, mais binyanav, mais khatat. On n'a qu'à l'apprendre par le moyen d'un binyanav à partir du Korban Khatat, qui lui a été appris du Korban Ola par le moyen de juxtaposition. Le Maïl Kheta Katve, pourquoi est-ce que la Torah l'a écrit clairement concernant le Korban Hasham? Lave les Memra, n'est-ce pas que c'est pour nous enseigner de d'avoir à la Met Bekesh en Choser ou la Met Bevinyanav, que quelque chose que nous avons appris par le moyen d'une juxtaposition, on ne peut pas l'apprendre ailleurs par le moyen d'un binyanav? Alors, ma réfute, velita mer, et selon toi qui penses que nous aurions pu apprendre cette loi d'un binyanav, tete mi binyanav, mais ola, on n'a qu'à l'apprendre par le moyen d'un binyanav, donc un raisonnement, directement à partir du korban ola. Maïta maloate, pourquoi nous ne pouvons pas l'apprendre du korban ola par le moyen d'un binyanav? Mishum deika le mefrach, car on pourrait refuter ce raisonnement en disant Ma le ola sheken kalil, comment peux-tu l'apprendre d'un korban ola, car celui-ci est offert entièrement sur l'autel, ce qui n'est pas le cas pour le korban hasham. Khatat nami, même du korban khatat aussi on ne peut pas l'apprendre, car ika le mefrach, on peut réfuter ce raisonnement en présentant l'argument suivant Ma le khatat sheken mechaperet al chayav kritut, comment peux-tu l'apprendre d'un korban khatat alors que celui-ci expie les péchés sanctionné par la peine du retranchement dans le monde futur. La Gemara dit, Chada mechada lo atia, il est vrai qu'on n'aurait pas pu apprendre un sacrifice d'un seul autre, c'est-à-dire si la Torah n'en avait écrit qu'un seul, on n'aurait pas pu déduire les autres, car il y a des réfutations, comme nous l'avons vu, tete chada mitarte, mais on aurait pu apprendre un des sacrifices de deux autres sacrifices que la Torah aurait écrit. La Gemara demande, mais hetete, duquel aurais-tu pu apprendre? Autrement dit, quel est le sacrifice que la Torah aurait pu omettre et on l'aurait déduit des deux autres? Alors la Gemara précise, l'onirtov rachamana ola, si la Torah n'avait pas écrit que le korban ola était sacrifié dans la partie nord de la cour du sanctuaire, vetete mechatat ve'asham, et on l'aurait déduit par ce raisonnement du binyanav, du korban chatat et du korban hasham, on n'aurait pas pu le faire, car on aurait présenté l'argument suivant, ma lehanar sheken mechaprim, comment peux-tu l'apprendre de ces deux, donc le Korban Khatat et le Korban Hasham, alors qu'ils expient des péchés, ce qui n'est pas le cas pour le Korban Ola? L'onirtov rachamana bechatat, si la Torah n'aurait pas écrit au sujet du Korban Khatat qu'il est sacrifié dans la partie nord de la cour du sanctuaire, vetete me'anach, et qu'on l'apprenne des deux autres, donc du Korban Ola et du Korban Hasham, on aurait présenté l'argument suivant, ma lehanach sheken zcharim, comment peux-tu l'apprendre de ces deux sacrifices, le Korban Ola et le Korban Hasham, alors qu'ils ont cette particularité qu'il s'agit uniquement d'un sacrifice mâle, ce qui n'est pas le cas pour le korban chatat, qui, des fois, est une femelle. L'onirtov be'asham, si la Torah n'avait pas écrit au sujet du korban hasham qu'il est sacrifié dans la partie nord de la cour du sanctuaire, vetete me'anach, et qu'on apprenne des deux autres, donc du korban ola et du korban chatat, on aurait présenté l'argument suivant, ma lehanach sheken yeshnan betzibur ke be'achid, comment peux-tu l'apprendre de ces deux, donc du Korban Ola et du Korban Khatat, alors qu'ils ont cette particularité, qu'il s'agit de types de sacrifices qui existent à la fois pour le public que pour le particulier, ce qui n'est pas le cas pour le Korban Hasham, qui n'existe que chez le particulier. Donc finalement la preuve de Rabbi Irmiya a été refutée, Et la Gemara n'a pas réussi à déterminer est-ce que quelque chose que nous avons appris par le moyen d'une juxtaposition, peut-on l'étendre ailleurs par le moyen d'un binyanav? Alors la Gemara demande, davar halamed begzera shava, mahu shelamed bekesh, quelque chose que nous avons appris par le moyen d'une gzera shava, peut-on l'apprendre ailleurs par le moyen d'une juxtaposition? La Gemara répond à Marav Papa, nous lisons selon la Shitam Kubetset, Tanya, il est enseigné dans une braïta concernant le Korban Toda, le Pasuk dit dans Vaikra Zayin, Vezot Torat Zevach Hashlamim, etc., Im Al Toda, etc. Voici la loi du sacrifice du Korban Shlamim, s'il s'agit d'un Korban Toda, etc. La Torah a donc juxtaposé le Korban Toda et le Korban Shlamim. La Madnu le Toda Sheba Min Hamaaser, nous avons appris de là que le Korban Toda peut être offert avec de l'argent provenant de la seconde dîme qui a été rachetée et qui doit être consommée dans la ville de Yerushalayim. Et cela, Midash Kechan Shlamim de Atumi Maaser, car nous avons appris ailleurs que le Korban Shlamim peut être aussi offert avec de l'argent provenant de la seconde dîme. Alors la Gemara demande Shlamim Gufayu Menalan, d'où sait-on que le Korban Shlamim peut être offert avec de l'argent provenant de la seconde dîme? La Gemara répond Dirtiv, car le Pasuk dit Sham Sham. Le Pasuk emploie le terme de Sham là-bas, à la fois concernant le Korban Shlamim dans Dvarim Kavzayin et à la fois concernant la seconde dîme dans Dvarim Yuddalet. Ceci est donc le support de la Gzera Shava qui nous permet d'apprendre que le Korban Shlamim peut être offert avec de l'argent provenant de la seconde dîme. Nous voyons donc que ce que nous avons appris par le moyen d'une Gzera Shava peut être appris ailleurs par le moyen d'une juxtaposition. Amarle, Marzutra Bere de Rav Mari le Ravina, Marzutra, fils de Rav Mari, a posé la question suivante à Ravina, Maaser Dagan Chulin Baal Mahu. La seconde dîme que nous avons prélevée sur les céréales est considérée comme une chose profane, c'est-à-dire, comme nous avons vu dans le DAF précédent, que le fait que ce que nous avons appris d'un principe, nous ne pouvons pas l'apprendre par le moyen d'un autre principe, c'est uniquement en ce qui concerne les lois des sacrifices. Donc, puisque la source de l'enseignement est quelque chose de profane et non pas une loi concernant les sacrifices, cette restriction ne s'applique pas. Amarle, Ravina lui répond, Amar Amra Lamed Kodesh ou Lamed Kodesh, est-ce que celui qui a fixé cette restriction a-t-il dit que ce que nous apprenons doit être une loi concernant les sacrifices et la source de l'enseignement doit aussi être une loi concernant les sacrifices pour que cette restriction s'applique? Si ce que nous voulons apprendre maintenant est une loi concernant les sacrifices, cette restriction s'appliquera même si la source de l'enseignement n'est pas une loi concernant les sacrifices. Et si quand même nous voyons que nous pouvons apprendre par le moyen d'une juxtaposition quelque chose que nous avons appris par ailleurs par le moyen d'une Gzera Shava, nous voyons que pour ces principes, dans cet ordre, cette restriction ne s'applique pas. En conclusion, le fait de savoir si quelque chose que nous avons appris par le moyen d'une Gzera Shava peut être appris ailleurs par le moyen d'une juxtaposition reste une discussion entre Rav Papa et Marzutra, fils de Rav Mari. Alors la Gemara demande d'avoir halamed begzera shava, mahu shelamed begzera shava, quelque chose que nous avons appris par le moyen d'une Gzera Shava, peut-on l'enseigner ailleurs par le moyen d'une Gzera Shava? La Gemara répond, Amar Rami Bar Chama, Tanya, il est enseigné dans une braïta concernant les pains spéciaux qui accompagnent le Korban Toda. En effet, il y a quatre sortes de pains spéciaux qui accompagnent le Korban Toda. Il s'agit de pains non levés, donc de la matzah, mais en fait il s'agit de pains épais. Puis, la deuxième sorte, c'est des galettes plates. La troisième sorte, c'est aussi de la matzah ou des pains, mais en fait dont la pâte a été cuite dans l'eau bouillante. La quatrième sorte, c'est des pains chametz, donc du pain levé. Alors la Braïta dit, le Pasuk dit dans Vaikra Zayin concernant ces pains, solet mourbechet, de la semoule qui a été bouillie dans l'eau bouillante. La Madnu, nous avons appris l'Irvucha que les pains dont la pâte a été bouillie dans l'eau bouillante, chez Ba'a Solet, que ce qu'on amène pour ces pains, c'est de la semoule. Chalot Minayim, d'où sait-on que les pains azim, donc qui n'ont pas été bouillis dans la bouillante. D'où sait-on qu'il s'agit aussi de la semoule? La Breta répond, Talmud Lomar, chalot, chalot. Nous l'apprenons d'une xerashava, dont le support est le terme de chalot, employé à la fois pour les pains qui ont été bouillis dans l'eau et les pains non levés qui ont été cuits dans le four. Rekikin minayin, d'où sait-on que les galettes plates sont aussi de la semoule? Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasuk dit, il s'agit aussi d'une xerashava, matzot, matzot, dont le support est le terme de matzot, apparemment, employé à la fois pour ces galettes et pour les pains qui ont été cuits dans le four. Finalement, nous voyons que quelque chose que nous avons appris par le moyen d'une xerashava, qu'il s'agit de la semoule, nous l'apprenons ailleurs par le moyen d'une xerashava. Amarle, Ravina lui a demandé, Mimai de matzot, matzot, mechalot gamar, d'où sait-on que cette xerashava, dont le support est le terme de matzot, nous l'apprenons des pains cuits au four, dont la Torah a parlé à propos du Korban Toda, Dilma Mima Fetanur Gamar. Peut-être que cette Xerashava est appliquée à partir du terme Chalot, employé à la fois pour les pains employés pour le Korban Toda et pour l'offrande de farine dont les pains sont cuits au four. Il s'agit d'Epsukim dans Vaikra Dalet, où le Pasuk emploie clairement le terme de Matzot et le terme de Solet. Finalement, il ne s'agit pas quelque chose que nous avons appris par le moyen d'une Xerashava, que nous apprenons ailleurs, par le moyen d'une autre Xerashava. Et là, Marava, plutôt Ravadi, Tanya, il est enseigné dans une Braïta concernant le taureau offert par le Kohen Gadol lorsqu'il a fauté. Le sang de ce taureau est aspergé à l'intérieur du sanctuaire, les graisses sont brûlées sur l'autel et toute la viande est brûlée à l'extérieur du camp. En le Pasuk dit dans Vaikra Dalet, Vekirbo ou Pircho, Vehotsi, etc. Et ses entrailles et ses excréments, il les fera sortir. Mais la Med, ce pasouk nous enseigne, chez Motsi Oshalem, qu'il le sort donc ce taureau, alors qu'il est entier, il n'a pas été découpé, car sinon, il est impossible de le sortir en une fois. Yachol Yisrefenu Shalem, on aurait pu penser qu'on doit le brûler alors qu'il est entier, sans le découper. La Braïta répond, Neemar Kan. Ici, à propos de ce taureau offert par le Kohen Gadol, le pasouk dit Rosho ou Kraav, et sa tête et ses pieds, Veneemar Lehalan, il est écrit là-bas, donc ailleurs à propos du Korbanola, Rosho ou Kraav, sa tête et ses pieds. Ces termes vont servir de support pour une Xerashava. Et nous dirons Ma Lehalan, de même que là-bas à propos du Korbanola, à l'Edenitoir, nous savons qu'il est offert après un découpage. Afkan à l'Edenitoir, ainsi ici. Ce taureau est brûlé après un découpage. Ima lehalan be'efchet. Si nous comparons le korban ola à ce korban chatat, on pourrait dire aussi, de même que là-bas, il faut le dépecer. Afkan nami be'efchet. Ainsi, ici, pour ce taureau, il faut le dépecer avant de le brûler. Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasuk dit Vekirbo ou Pircho, et ses entrailles et ses excréments. La Gemara demande, mais et Talmuda, comment l'apprenons-nous de ce pasouk? La Gemara répond, Amar Rav Papa, Keshem She Pircho Bekirbo, de même que ses excréments restent à l'intérieur, car il est dégoûtant de les sortir pour les brûler séparément, Kar Besaro Beoro, ainsi sa chair reste dans sa peau, c'est-à-dire le pasouk mentionne aussi la chair du taureau et sa peau, donc nous les comparons, pour dire que de même que les excréments restent forcément à l'intérieur du corps de l'animal, ainsi la chair restera enveloppée de la peau. En tout cas, nous avons appris par le moyen d'une xerashava que ce taureau sera découpé avant d'être brûlé. Vetania, puis il est enseigné dans une autre braïta concernant les sacrifices spéciaux offerts à Yom Kippour, notamment le taureau offert par le Kohen Gadol. La braïta dit, Rebi Omer Ne'emar Kan. Le pasouk ici concernant le taureau offert à Yom Kippour s'exprime en parlant de Or ou Bassar ou Peresh, la peau, la chair et les excréments.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Nun Amud Bet, Veneemar Lehalan, et là-bas concernant le taureau offert par le Kohen Gadol qui a fauté. Le pasouk s'exprime aussi en parlant de Or ou Bassar ou Peresh, la peau, la chair et les excréments. Ces termes vont servir de support à une Xerashava Et nous dirons Ma le Halan, de même que là-bas, concernant le taureau offert par le Kohen Gadol, lorsqu'il a fauté à l'Edenitouar chez l'Obefchet, nous avons appris, comme nous l'avons vu précédemment, qu'il est brûlé après qu'on l'a découpé, mais sans le dépecer. Afkan, ainsi ici, pour ce taureau offert par le Kohen Gadol à Yom Kippour, à l'Edenitouar chez l'Obefchet, il sera brûlé après avoir été découpé, mais sans qu'il ait été dépecé. Le Tosfot précise que le fait qu'il n'est pas dépecé, nous n'avons pas besoin de l'apprendre par une Xera Shava, car nous pouvons l'apprendre des termes Or ou Bassar ou Peresh, donc les excréments, que le Passouk emploie au sujet du taureau offert à Yom Kippour. En tout cas, nous voyons que quelque chose que nous avons appris par le moyen d'une Xera Shava, nous pouvons l'apprendre ailleurs par le moyen d'une autre Xera Shava. La Gemara demande Davar halamed be Xera Shava, mahu shehelamed be kal vachomer, quelque chose que nous avons appris par le moyen d'une Xera Shava, peut-on l'apprendre ailleurs par le moyen d'un raisonnement a fortiori? La Gemara répond Kal vachomer, nous pouvons répondre à cette question par un raisonnement a fortiori. Uma hekesh eno melamed be hekesh, si déjà ce que nous avons appris par le moyen d'une juxtaposition, on ne peut pas l'enseigner ailleurs par le moyen d'une autre juxtaposition, I mide Rava, et cela nous l'apprenons soit de l'enseignement de Rava, qui le déduit du fait que pour nous enseigner que le Korban Hasham est sacrifié dans la partie nord de la cour du sanctuaire, la Torah a eu besoin de le comparer à la fois au Korban Khatat et au Korban Ola, comme nous l'avons vu dans le daf précédent, I mide Ravina, soit de l'enseignement de Ravina, qui le déduit du fait que pour nous enseigner quelle sont les graisses qui seront offertes pour le bouc offert par le public qui a commis l'idolâtrie, la Torah a eu besoin d'ajouter une juxtaposition supplémentaire au sujet du taureau offert par le Kohen Gadol qui a fauté. Donc la Torah l'a comparé au taureau offert comme Korban Shlamim, comme nous l'avons vu aussi précédemment. Donc, si ce que nous avons appris par le moyen d'un Hekesh, nous ne pouvons pas l'enseigner ailleurs par le moyen d'une juxtaposition, mais la Med Bekal Vachomer, nous pouvons quand même étendre ce que nous avons appris par le moyen d'une juxtaposition, par le moyen d'un raisonnement a fortiori, mi de Tana de Berabi Ishmael, cela nous l'avons appris par l'enseignement de la Braïta enseignée dans le Beit HaMidrash de Rabbi Ishmael, que nous avons vu au début de ce daf. Donc nous voyons qu'il est plus facile d'étendre un enseignement par le moyen d'un raisonnement a fortiori. Xera Shava Hamelamed et Bekesh, quelque chose que nous avons appris par le moyen d'une Xera Shava, que nous avons vu précédemment, on peut l'étendre par le moyen d'une juxtaposition Midrav Papa, cela nous l'avons appris de l'enseignement de Rav Papa, qu'il a déduit du fait que nous avons étendu une loi au Korban Toda par le moyen d'un Hekesh au Korban Shlamim. Il s'agit d'une loi que nous avons appris par le moyen d'une Xera Shava à partir de la seconde dîme. Enodin Shetelamed Bekal Vachomer, n'est-il pas évident que quelque chose que nous avons appris par le moyen de Xera Shava, on pourra l'étendre, donc l'enseigner ailleurs par le moyen d'un raisonnement a fortiori? La Gemara réfute, Ha nicha le mandi itle de Rav Papa. Ceci est bien selon celui qui est d'accord avec Rav Papa. Par exemple, comme nous l'avons vu précédemment, Ravina. Et là, le mandi itle de Rav Papa, mais celui qui n'est pas d'accord avec Rav Papa, car il a présenté l'argument comme quoi la seconde dîme est en fait quelque chose de profane. Donc finalement, nous n'avons pas de preuve que quelque chose que nous avons appris par le moyen d'une Xera Shava, on peut l'enseigner ailleurs par le moyen d'un Hekesh. Or, Maïka le Memar, que pourra-t-on dire? Ce raisonnement, a fortiori, ne tient pas. La Gemara répond, et là, plutôt, Kal Vachomer, c'est ceci le raisonnement, a fortiori, que nous pouvons présenter. Uma Hekesh, El Melamed Be Hekesh, si quelque chose que nous avons appris par le moyen d'une juxtaposition, nous ne pouvons pas l'enseigner ailleurs par le moyen d'une autre juxtaposition. Imiderava, Imideravina, ceci nous l'avons appris soit de l'enseignement de Rava, soit celui de Ravina, comme nous l'avons vu précédemment, Melamed Bekal Bechomer, quand même, on peut l'enseigner ailleurs par le moyen d'un raisonnement a fortiori, Midetana de Rabbi Ishmael, ceci nous l'avons appris par la Braïta enseignée dans le Beit HaMidrash de Rabbi Ishmael, Xera Shava, Hamelamedet Begzera Shava Chaverta, quelque chose que nous avons appris par le moyen d'une Xera Shava, que nous pouvons enseigner ailleurs par une autre Xera Shava. Ceci, Mide Rami Barchama, nous l'avons appris de l'enseignement de Rami Barchama, que nous avons vu précédemment. Enodin Shetelamed Bekal Vachomer, n'est-il pas évident que quelque chose que nous avons appris par le moyen d'une Xera Shava, on pourra l'enseigner ailleurs par le moyen d'un raisonnement a fortiori. Ce raisonnement a fortiori n'est pas réfuté. Par conséquent, ce que nous avons appris par le moyen d'une Xera Shava, on pourra l'enseigner ailleurs par le moyen d'un raisonnement a fortiori. La Gemara demande d'avoir halamed be Xera Shava mahu shehilamed bevinanav. Quelque chose que nous avons appris par le moyen d'une Xera Shava, peut-on l'enseigner ailleurs par le moyen d'un binyanav, qui est un raisonnement qui permet d'étendre une loi que nous avons vue dans un endroit à d'autres endroits tant qu'il n'y a pas de réfutation? La Gemara répond, écoute, c'est une question qui reste sans réponse, Eliyahu Hanavi répondra. La Gemara demande, davar halamed be kalvachomer, mahu shehilamed be ekesh. Quelque chose que nous avons appris par le moyen d'un raisonnement a fortiori, peut-on l'enseigner ailleurs par le moyen d'une juxtaposition? La Gemara répond, kalvachomer, nous pouvons répondre à cette question par le moyen d'un raisonnement a fortiori. Uma gzera shava she'ena lemeda, nous lisons selon la shita mukubetset mehekesha, si la gzera shava ne peut pas être appliquée pour enseigner une loi, si celle-ci a été apprise d'ailleurs par le moyen d'une juxtaposition, mide Rabbi Yochanan, ceci nous l'avons appris de l'enseignement de Rabbi Yochanan, qui le déduit du fait que la Torah a dû écrire clairement que le Korban Hasham est sacrifié dans la partie nord de la cour du sanctuaire, alors qu'on aurait pu l'apprendre par le moyen d'une Gzera Shava à partir du Korban Khatat, qui lui, nous l'avons appris par juxtaposition avec le Korban Ola. Melamed Behekesh, quand même, quelque chose que nous avons appris par le moyen d'une Gzera Shava, peut être enseigné ailleurs par le moyen d'une juxtaposition. Midrav Papa, ceci, nous l'avons appris de l'enseignement de Rav Papa que nous avons vu précédemment. En Kalva Chomer Halamed Mehekesh, le raisonnement a fortiori que nous pouvons appliquer même pour enseigner quelque chose que nous avons appris par ailleurs par le moyen d'une juxtaposition Midetana de Berami Ishmael, ceci nous l'avons appris d'une braïta enseignée dans le Beit HaMidrash de Rabbi Ishmael, Enodin Shehelamed Behekesh, n'est-il pas évident que ce que nous avons appris par raisonnement a fortiori, on pourra l'enseigner ailleurs par le moyen d'une juxtaposition? La Gemara réfute, Hanicha le mandit le Hedra Papa, ceci est bien pour celui qui est d'accord avec Rav Papa, que nous avons donc appris que ce que nous avons appris par le moyen d'une Xera Shava peut être enseigné ailleurs par le moyen d'une juxtaposition. Et là, le man de l'Etle Hedra Papa, mais selon celui qui est en désaccord avec Rav Papa, car il dit que l'enseignement présenté par Rav Papa n'est pas une preuve, étant donné que la seconde dîme est considérée comme quelque chose de profane. Maïka le Memar, que pourra-t-on dire? Ce raisonnement ne tient pas. La Gemara répond, effectivement, celui qui est en désaccord avec Rav Papa ne pourra pas appliquer ce raisonnement fortiori. Tekou, c'est donc, selon lui, une question qui reste sans réponse. Eliyahu Hanavi répondra. La Gemara demande, d'avoir à la Met Bekal Bachomer, Maouche et la Met Bekzera Shava, quelque chose que nous avons appris par raisonnement fortiori, peut-on l'enseigner ailleurs par le moyen d'une Gzera Shava? La Gemara répond, Kalva Chomer, ceci nous pouvons l'apprendre par un raisonnement a fortiori. Uma Gzera Shava She'ena Lemeda, nous lisons selon la Shetam Kubetset que nous avons vu précédemment, Mehekesha, si la Gzera Shava ne peut pas être appliquée pour enseigner quelque chose que nous avons appris par le moyen d'une juxtaposition, Mide Rabbi Yochanan, ceci nous l'avons appris de l'enseignement de Rabbi Yochanan que nous avons vu précédemment, Melamed Begzera Shava, quand même, quelque chose que nous avons appris par le moyen d'une Gzera Shava peut être enseigné ailleurs par le moyen d'une autre Gzera Shava, Mide Rami Barchama, ceci nous l'avons appris de l'enseignement de Rami Barchama que nous avons vu précédemment. Kalva Chomer Halamed, nous devons lire Mehekesh, le raisonnement a fortiori que nous pouvons appliquer même pour apprendre quelque chose que nous avons appris par le moyen d'une juxtaposition Mide Tana de Rabbi Ishmael, ceci nous l'avons appris d'une Braïta enseignée dans le Beit HaMidrash de Rabbi Ishmael, Enodin Shetelamed Begzera Shava, n'est-il pas évident que ce que nous avons appris par raisonnement a fortiori, nous pourrons l'enseigner ailleurs par le moyen d'une Gzera Shava? En fait, ce raisonnement a fortiori veut présenter l'argument suivant. Si la Gzera Shava qui ne peut pas se greffer sur un Hekesh permet à une autre Gzera Shava de se greffer sur elle, le Kalva Chomer qui peut se greffer sur le Hekesh a plus forte raison qu'il permettra à la Gzera Shava de se greffer sur elle. Alors la Gemara demande d'avoir halamed be kalva chomer, quelque chose que nous avons appris par le moyen d'un raisonnement a fortiori, mahu shehelamed be kalva chomer, peut-on l'enseigner ailleurs par le moyen d'un autre raisonnement a fortiori? La Gemara répond, kalva chomer, nous avons une réponse à cette question par le moyen d'un raisonnement a fortiori, qui est le suivant. Nous lisons selon la Shita Mukubetset que nous avons vu précédemment, Mehekesh, si la Gzera Shava ne peut pas s'appliquer pour enseigner quelque chose que nous avons déjà appris par le moyen d'une juxtaposition, Mide Rabbi Yochanan, et cela nous l'avons appris de l'enseignement de Rabbi Yochanan, Melamed Bekal Vachomer, quand même quelque chose que nous avons appris par le moyen d'une Gzera Shava peut être appris ailleurs par le moyen d'un raisonnement a fortiori, Kide Amaran, comme nous l'avons dit précédemment, nous l'avons appris par un raisonnement a fortiori. Kalvachomer halamed mekesh, le raisonnement a fortiori qui peut enseigner ailleurs quelque chose que nous avons appris par le moyen d'une juxtaposition, midetana de Berabi Ishmael, ceci nous l'avons appris d'une braïta enseignée dans le Beta Midrash de Rabbi Ishmael, enodin shehalamed bekalvachomer, n'est-il pas évident qu'il pourra être appliqué pour enseigner ailleurs quelque chose que nous avons déjà appris par le moyen d'un raisonnement a fortiori. Vezehu kalvachomer ben kalvachomer. Ceci est un raisonnement a fortiori, fils de raisonnement a fortiori. C'est-à-dire, ce raisonnement a fortiori que nous voulons appliquer pour apprendre quelque chose que nous avons appris par un autre raisonnement a fortiori découle d'un autre raisonnement a fortiori, car le fait que nous pouvons appliquer ce raisonnement, nous l'avons appris par un raisonnement a fortiori. Alors la Gemara demande, ben beno shel kalvachomeru, c'est en fait un petit-fils de kalvachomer, car le raisonnement a fortiori que nous voulons appliquer, donc pour apprendre quelque chose que nous avons appris par le moyen d'un raisonnement a fortiori, nous avons appris qu'il est possible de le faire par un raisonnement a fortiori comme nous avons vu précédemment, mais en fait ce même raisonnement a fortiori dépend d'un autre raisonnement a fortiori, car le fait que nous pouvons appliquer un raisonnement a fortiori pour apprendre quelque chose que nous avons appris par le moyen d'une Gzera Shava, nous l'avons aussi appris par un Kalvachomer qui nous dit que nous pouvons faire chevaucher un raisonnement a fortiori sur un autre, à tel point lorsque nous faisons dépendre trois raisonnements a fortiori l'un de l'autre. L'Agma répond, et là plutôt, Kalvachomer, c'est ceci le raisonnement a fortiori que nous allons appliquer. Uma hekesh et nolamed behekesh, si déjà le principe de la juxtaposition ne peut pas être appliqué pour apprendre quelque chose que nous avons appris par le moyen d'une autre juxtaposition, imederava, imederavina, ceci nous l'avons appris soit de l'enseignement de Rava, soit de celui de Ravina que nous avons vu dans le daf précédent, quand même, melamed bekalvachomer. Quand même, ce que nous avons appris par le moyen d'une juxtaposition, nous pouvons l'apprendre ailleurs par le moyen d'un raisonnement a fortiori, midetane de Rabbi Ishmael. Ceci, nous l'avons appris de la braïta enseignée dans le Beit HaMidrash de Rabbi Ishmael. Kalvachomer halamed mehekesh, le raisonnement a fortiori que nous pouvons appliquer pour apprendre quelque chose que nous avons appris par le moyen d'une juxtaposition, midetane de Rabbi Ishmael. Ceci, comme nous l'avons vu, nous l'avons appris d'une braïta enseignée dans le Beit HaMidrash de Rabbi Ishmael. Enodin shehalamed bekalvachomer, n'est-il pas évident qu'on pourra l'appliquer pour apprendre quelque chose que nous avons appris par le moyen d'un raisonnement a fortiori? Vezehu kalvachomer ben kalvachomer, et ceci est un cas d'un kalvachomer fils de kalvachomer, car le raisonnement a fortiori que nous voulons appliquer pour apprendre quelque chose que nous avons appris par ailleurs par le moyen d'un raisonnement a fortiori, nous avons appris qu'il est possible de le faire par le moyen d'un raisonnement a fortiori. Mais la source de ce raisonnement, c'est des braïtot ou des enseignements, et non pas un raisonnement a fortiori. Donc finalement, c'est un raisonnement a fortiori qui dépend d'un autre, mais qui ne dépend pas d'un troisième. Nous avons fini ici le shiur de Masechet Zvachim Daf Nun. Nous commençons le shiur de Masechet Zvachim Daf Nun Aleph. Nous commençons Daf Nun Amud Bet à la fin de la 11e ligne du bas de la page. Dans le Daf précédent, nous avons vu que la Gemara a essayé de déterminer dans quelle mesure il est possible d'appliquer un principe de déduction de la Torah pour apprendre une loi qui concerne les sacrifices, si cette même loi, nous l'avons apprise par le moyen d'un principe de déduction. Il s'agit en fait d'un des quatre principes de déduction. Le premier, c'est le Hekesh, juxtaposition. Le deuxième, c'est Gzera Shava, c'est rapprochement de deux sujets par le moyen d'un terme qui va servir de support à cette Gzera Shava pour rapprocher les deux sujets. Le troisième principe, c'est le raisonnement a fortiori. Le quatrième, c'est Binyanav, C'est un principe selon lequel une loi que nous avons vue quelque part, il est possible de l'étendre à d'autres sujets tant qu'il n'y a pas de réfutation. Or, en résumé, nous avons vu que quelque chose que nous avons appris par le moyen de la juxtaposition, il est impossible d'apprendre une loi concernant les sacrifices par le moyen d'une autre juxtaposition, ni par le moyen d'une xerashava, mais il est possible de l'enseigner ailleurs par le moyen d'un raisonnement a fortiori. Mais le fait de savoir s'il est possible de l'enseigner ailleurs par le moyen d'un binyanav, la Gemara est restée sans réponse à ce sujet. Quelque chose que nous avons appris par le moyen d'une xerashava, il est possible de l'enseigner ailleurs par le moyen d'une autre xerashava ou par le moyen d'un raisonnement a fortiori, mais s'il est possible de l'enseigner ailleurs par le moyen d'une juxtaposition, ceci dépend d'une discussion entre deux Amoraïm. Donc selon Rav Papa, il est possible de le faire, car selon lui, la restriction concernant le fait d'appliquer un principe de déduction pour apprendre quelque chose que nous avons appris par un autre principe s'applique à chaque fois où la loi que nous désirons apprendre concerne les sacrifices, même si la source de l'enseignement n'est pas forcément une loi concernant les sacrifices. Donc, il a apporté une preuve à ce sujet, c'est pour cela que, selon lui, il est possible d'appliquer le principe de la juxtaposition pour apprendre quelque chose que nous avons appris par le moyen d'une xerashava. Selon ceux qui sont en désaccord avec Rav Papa et qui considèrent qu'il faut que non seulement le sujet que nous apprenons, mais la source de l'enseignement soit aussi des sacrifices. Donc finalement, il n'y a pas de preuve à ce sujet. C'est une question qui reste sans réponse. Aussi, s'il est possible d'appliquer le binyanav pour apprendre quelque chose que nous avons appris par le moyen d'une xerashava, c'est aussi une question sans réponse. Quelque chose que nous avons appris par le moyen d'un raisonnement a fortiori, il est possible de l'enseigner ailleurs par le moyen d'une xerashava ou par le moyen d'un autre raisonnement a fortiori, mais pour l'enseigner ailleurs par le moyen du principe de la juxtaposition, la Gemara dit que cela dépend de cette discussion entre Rav Papa et les autres Amoraïm, car s'il est possible de le faire, nous l'apprenons par un raisonnement a fortiori dont la source serait justement le fait que quelque chose que nous avons appris par le moyen d'une xerashava, il est possible de l'enseigner ailleurs par le moyen d'un hekesh. Et ceci est, comme nous l'avons dit, une discussion entre Rav Papa et les autres Amoraïm. Donc, selon Rav Papa, il est possible d'appliquer le principe de la juxtaposition pour apprendre quelque chose que nous avons appris soit par le moyen d'une xerashava, soit par le moyen d'un raisonnement a fortiori. Selon les autres Amoraïm, nous pourrons l'enseigner ailleurs par le moyen d'un raisonnement a fortiori, mais pour l'apprendre par le moyen d'une xerashava, c'est une question qui reste sans réponse. Alors, la Gemara demande, davar halamed bekavachomer, quelque chose que nous avons appris par le moyen d'un raisonnement a fortiori, mahu shehelamed bevinyanav, peut-on l'enseigner ailleurs par le moyen du principe du binyanav, qui permet d'étendre une loi tant qu'il n'y a pas de réfutation? La Gemara répond, amar Rabbi Yirmiya, tashma, viens écoute une preuve d'une Mishnah qui a été enseignée plus loin, daf samertet. Alors, la Mishnah dit, Malak venimtset trefa, le Kohen qui a sacrifié un oiseau offert comme sacrifice en sectionnant sa nuque, et il s'est avéré que cet oiseau était atteint d'une blessure mortelle le rendant trefa, donc interdit à la consommation. Finalement, le sacrifice est invalidé. Alors la question va se poser, est-ce que cet oiseau est impur et rend impur celui qui le consomme ou non? Rabbi Meir Omer, cet oiseau ne rend pas impur la personne qui le consomme lorsqu'il l'avale. C'est-à-dire, le cadavre d'un oiseau ne transmet pas l'impureté de la même manière que le fait le cadavre d'un animal. En effet, le cadavre de l'oiseau ne transmet l'impureté qu'à celui qui le consomme au moment où il l'avale. Mais puisqu'ici, il l'avait sacrifié dans le cadre d'un sacrifice, cet oiseau n'aura pas le statut d'un cadavre d'un oiseau, mais plutôt le statut d'un oiseau qui a été abattu rituellement. Et ce, même si finalement, cet oiseau est interdit à la consommation. Il en sera de même d'ailleurs, s'il s'agit d'un oiseau profane qui a été abattu rituellement. Rabbi Yehuda Omer, metam'a bebet ablia, cet oiseau rend impur celui qui le consomme lorsqu'il l'avale. Et cela, car selon l'opinion de Rabbi Yehuda, l'abattage d'un oiseau lorsqu'il s'avère être interdit à la consommation parce qu'il est devenu tréfa, n'enlève pas son impureté. Donc, soit s'il a été abattu rituellement dans le cas où il s'agit d'un oiseau profane, soit s'il s'agit d'un sacrifice qui a été sacrifié en sectionnant sa nuque, et finalement il s'est avéré que cet oiseau était très fat, donc interdit à la consommation, celui-ci aura le statut d'un cadavre d'un oiseau qui transmet l'impureté à celui qui le consomme lorsqu'il l'avale. Amar Rabbi Meir, Kal vachomer, nous pouvons présenter un raisonnement a fortiori. Uma nivlat behema, si le cadavre d'un animal shemetam abe magao ou bemasa qui transmet l'impureté soit à celui qui le touche, soit à celui qui le porte, shritata metaheret trefata mitumata, lorsque cet animal est abattu rituellement, cet abattage va enlever son impureté, même s'il s'avère être trefa, donc interdit à la consommation. Nevelat of, le cadavre d'un oiseau chez en metame bemaga ou bemasa qui ne transmet pas l'impureté à celui qui le touche ou celui qui le porte, car comme nous l'avons dit précédemment, le cadavre de l'oiseau ne transmet l'impureté qu'à celui qui le consomme lorsqu'il avale, donc c'est une impureté plus légère. Enodin shetehe shritata metaheret trefata mitumata, n'est-il pas évident que lorsqu'il a été abattu rituellement, cet abattage enlèvera son impureté même s'il s'avère être interdit à la consommation parce qu'il est trefa? Donc finalement, l'oiseau devrait être pur, même lorsqu'il s'avère être interdit à la consommation, au moins lorsqu'il a été abattu rituellement. Alors la deuxième partie du raisonnement est le suivant. Ma matzinu bishrita shemarcherata beachila. De même que nous avons trouvé au sujet de l'abattage rituel de l'oiseau qui le permet à la consommation.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.